Bonsoir Jean-Marc et bienvenue sur Fréquence Mistral pour une nouvelle émission de Le Jardin des mots. Alors Le Jardin des mots, aujourd'hui je reçois Dominique Ottavi.
Bonsoir.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir. Alors, Christiane. Bonsoir Jean-Marc.
Dominique, vous êtes, je vais lire bêtement ce que dit Internet de vous. Dominique Ottavi, poète humaniste, corse, chanteur et musicien. Je vous mets un petit peu en colère au démarrage, comme ça. Et puis, comme d'habitude, on va démarrer cette émission par une musique que vous avez choisie. Et pour ce jour, on va écouter, on vous laisse deviner. Non, on ne dit rien, Merci Jean-Marc. Alors, première petite question et traditionnellement, Dominique, pourquoi ce choix, Esther Lamandier ?
Esther Lamandier, parce que pour moi, c'était un des premiers chocs de... Moi, je viens du rock'n'roll au départ, hein, quand j'étais gamin. Et mon approche de la musique méditerranéenne s'est faite à travers la musique irakienne, la musique syrienne. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré la musique d'Esther Lamandier... qui est vraiment une synthèse de toute la musique méditerranéenne et du chant méditerranéen, et qui m'a remis dans ma culture corse, qu'au départ, j'étais un petit peu loin quand même, oui.
Oui, alors je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes effectivement Corse, vous vivez en Corse aujourd'hui encore, et c'est un petit peu un clin d'œil et une énigme, hein, quelle est la part de corsitude là-dedans? Comment vous vous ressentez aujourd'hui? Vous travaillez beaucoup sur le continent, et puis vous vivez en Corse.
J'ai quitté la Corse en 1981, parce que c'était la guerre à ce moment-là. Donc il y avait les ferries qui déversaient des cars grillagés de garde mobile. C'était très dur, très difficile. Et je ne voulais plus vivre ça, donc je suis parti. Je me suis installé à Nice en 1980, qui me paraissait être la place la plus proche de Corse pour pouvoir y revenir régulièrement. Et j'ai bien fait, parce que c'est là que j'ai développé tous mes réseaux, qui me permettent de travailler encore aujourd'hui. Et finalement, c'était pas très loin, à travers l'approche de cette culture nissarde, à travers la montagne, à travers tout ça, j'étais pas très loin de la Corse. Et c'est à Nice que j'ai découvert ma corsitude, en fait.
Alors tout le monde, quand on vous connaît un petit peu, on parle d'abord du chanteur, hein, d'abord du musicien. Et moi, j'ai envie de dire tout simplement que pour moi, vous êtes avant tout quelqu'un de l'écrit. Et je vais me faire le plaisir de trouver un petit texte qui a quelques années quand même, hein, et où on voit bien ce qui vous porte. Alors, c'est dans un petit livre qui était paru en 2000 dans les Alpes-Maritimes, à l'occasion du Festival du Conte. Alors, le 16 juillet, Dominique Ottavi écrit « Quelques remarques sans fil ni aiguille », avec une citation de Ikeda, « L'humanité d'un être ne se manifeste qu'au bout d'un océan de paroles ». Et Dominique continue en disant « Il est curieux que notre civilisation, où l'on nous engage à nous méfier des beaux parleurs, où l'image du héros est celle du solitaire du désert, qui ne parle que peu et jamais pour ne rien dire, cette civilisation repose sur le livre où il est dit « Au commencement était le Verbe ». Les mots de la chair des mots, c'est tout comme. Oralité, écriture, tous les grands mythes, les grands enseignements de l'humanité ont été transmis oralement. Vive donc l'écriture qui m'autorise l'accès en théorie à tous les sons et à toutes les paroles du monde. Qu'il me reste à revisiter, à reconstituer, à incarner dans ma viande, mon corps, à haute voix, c'est comme la prière, non pas celle qui implore, qui quémande à genoux, mais celle qui manifeste debout, face à l'infini et face à mes frères, la plénitude de ma vie limitée. Je suis un oiseau qui chante, parce qu'en chantant, je manifeste ma fonction et ma liberté d'oiseau. Les mots sont sans doute venus de la prière, qui, je me plais à le penser, n'était au départ que chant d'oiseau, chant d'humain. Les mots ne sont pas là uniquement pour dire, désigner. Ils constituent en eux-mêmes, dans notre propre viande, la respiration de la vie. Nous sommes bâtis de mots, estomac, foie, rate, sexe, cœur, tout ça. Des mots qui chantent, des mots qui parlent et qui disent ma vie à l'autre, dont je reçois à mon tour la vie par la prise en compte que je peux faire de sa parole, de son chant. Appelons ça l'amour. C'est un texte un petit peu vieux dans lequel je retrouve, moi, la réalité de Dominique Ottavi, parce que bon, on sait bien que Dominique, ça fait quelque 35 ans que je le connais, et du coup on a un peu de mal à se dire vous, donc peut-être qu'on va bafouiller à un moment donné. Dominique, vous vous reconnaissez dans ce texte encore aujourd'hui?
Je suis surpris d'entendre ce texte dans votre bouche. J'ai rien à changer à ce texte. Je suis surpris, étonné, parce que j'ai pas lu ça depuis longtemps, mais je change rien à ce texte-là. Oui, je défends ça. Oui, vraiment, vraiment.
Alors, par l'écriture, certes, mais également, vous avez eu en un temps, je pense, maintenant c'est un petit peu plus loin, un parcours de conteur. Alors, c'est une expérience sur laquelle j'aimerais revenir, parce que moi, je sens Dominique Ottavi aujourd'hui assez en distance de ce monde.
Ce qui s'est passé, c'est que dans mes spectacles, où je chante, où je fais de la musique, où je fais le comédien, j'intercalais toujours des textes improvisés. Et un jour, il y avait un conteur, c'était dans la région de Grenoble. Il s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs. Et il m'a dit, mais tu sais que tu es conteur. Parce que ce que tu dis entre tes chansons, entre tes musiques, c'est du conte. Ah, je dis, ah bon, je ne savais pas, moi. Parce que pour moi, le conte, je ne savais pas du tout... Moi, je me sens, comme vous l'avez dit, avant tout, homme de mots, écrivain, en fait. Plus que chanteur, plus que comédien, plus que tout ça. Et il m'avait dit ça. Et comme je l'accompagnais en musique, il m'a dit, ben, on va faire un spectacle de conte ensemble. Alors, on l'avait fait ensemble. Et je m'étais mis à conter. Je me rendais compte que ça marchait très bien avec le public. Mais sincèrement, avec le recul de 25 ans maintenant... Je continue à faire des spectacles de contes, mais c'est pas ça qui me plaît le plus. Parce que il y a une espèce dans le conte, je sais que vous organisez les rencontres de la parole où vous m'avez convoqué plusieurs fois d'ailleurs.
Convoqué, fichtre, quel mot.
Mais le milieu du conte, il y a une espèce de, comment dire, de, on se retrouve avec les conteurs sur une espèce de lieux communs qui m'agréent pas trop, quoi, en fin de compte, quoi. Parce que moi, j'aime bien les contes philosophiques, les contes qui posent des questions et qui donnent pas les réponses. Et je trouve, c'est pas une critique, c'est pas une agression, mais je trouve que la plupart des conteurs que je rencontre aujourd'hui ont des solutions et des formules et des conclusions. Et moi, le conte, c'est comme la poésie, comme l'écriture et la chanson, c'est terminé sur un point d'interrogation. Et souvent, le public est perdu quand on lui donne pas, comme dans la télé-réalité, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, moi, je peux pas... Donc, à un moment, on en a parlé ensemble, il y a quelques années. C'est, les renards qui coursent les princesses, moi, ça me gonfle, quoi, vraiment. J'aime
mais
pas.
Oui, mais en même temps, le conte dont vous parlez, eh bien, le conte qui m'intéresse, moi, et qui intéresse un grand nombre de personnes, le conte puise dans les archétypes et dans tout l'inconscient, justement, que chacun trouve sa réponse. Le conte, normalement, ne donne pas de réponse. Enfin, ceci est un autre débat. Moi, j'ai l'impression que si vous comptez, c'est... par amour de votre île, de votre environnement, de cet environnement que vous avez peut-être rejeté en un temps, mais les contes de Dominique Ottavi ne sont pas des contes de renards et de princesses, justement.
Ah, pas du tout, non. Tu sais, vous savez, on se dit maintenant, ça va. Hein. Ce que je sais, j'ai envie de citer un écrivain que j'aime énormément, que j'ai fréquenté naguère à Sommières, dans le Gard, à la frontière du Gard et de l'Hérault. Il s'appelait Lawrence Durrell, qui était un grand écrivain qui était anglais, je crois. Oui, il était anglais, enfin, il était anglo-saxon, en tout cas. Et c'est dans le Quatuor d'Alexandrie, il dit « Toutes ces réponses pour lesquelles je dois trouver des questions et toutes ces rues étranges pour lesquelles je dois trouver des villes. » Pour moi, c'est ça, le conte. Donc, voilà, c'est mystère, hein, et boule de gomme. Et voilà. Et donc, je pense que même dans l'écriture, l'écriture qu'on a pu commettre ensemble, vous et moi, toi et moi, vous et moi, on fait sans arrêt, on ne fait que sans arrêt poser des questions. Et je dirais, à partir du moment où on a des certitudes et qu'on les assène, on n'est plus dans l'écriture, je pense pas. Je crois, hein, je sais pas.
Alors quand même, petite traduction, parce que là, vous touchez à un terrain que personne ne connaît, en fait. C'est vrai que nous avons fait plusieurs résidences d'écriture et que nous avons écrit ensemble. C'était une petite parenthèse qui est un peu inconnue.
Oui, mais il faut le dire, oui, il faut le dire.
Voilà. Alors, j'aimerais, moi, que vous preniez votre cetera et que, devinez quoi, vous nous offriez... un peu de ces paroles et de cette musique qui, et de cette voix assez particulière, je dirais, qui est la vôtre, absolument.
Jean-Marc.
Alors, tu dis un peu ce que tu veux, oui, mais bon. Encore Internet, hein. Richesse musicale que bouscule la voix superbe de gravité. On écoute, Dominique. Bah.
Je reste bouche bée. Ci uccidere non sa quanto t'adoro, le tue bellezze, le tue culani noru, ci uccidere in zuccherata con de longa stanuta. Fa la nini, fa la nana, uto a bella compagna. Sona allor tu stamane di bonura, giù non c'era che era andata la scuola, tutto era per beda te un mazzulo di viola. Fa la nini, fa la nanna, uto a bella compagna. Ucciucciareda, non sa quanto t'adoro, le tue bellezze, le tue culani in oro, ciucciare di zuccherata con de longa stanutata. Fa la nini, fa la nanna, uto a bella compagna.
Merci. En deux mots, qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Moi, je le sais, mais bon.
Donc, c'est un chant traditionnel qui vient du village de Maminane, de ma grand-mère, qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle était du village de Tsig, qui est dans le Haut-Tar, dans le sud de la Corse. Et c'est un chant qui date du XVIIIe siècle, on pense, qui est vraiment un traditionnel. Maminane, elle était illettrée, hein, elle ne savait ni lire ni écrire, elle ne parlait pas français, elle ne parlait que corse. Et elle chantait ça. Donc c'est une nane. Une nane, c'est une berceuse en langue corse. Et donc on dit pas, dans notre langue, on ne dit pas faire dodo, on dit falanine et falanane. Et donc il y a une petite anecdote qui est marrante, c'est que ce chant, parce qu'il y a toujours cette... Les gens du continent nous perçoivent comme des gens tristes, alors que pas du tout. Il y a toujours une ironie, quelque chose de complètement dingue. C'est qu'en fait, on est sûr que cette chanson, la minane, la grand-mère l'a chantée à sa petite fille, parce que dans notre langue, ou-tchou-tchou, c'est le bébé garçon, et achou-tcha, c'est la bébé fille. Donc en français, on dit le bébé. Et quand il dit achou-tcha-reda, ça démontre tout l'amour qu'il y a. Et derrière, il y a ansukerata, c'est que je vais te manger tellement je t'aime. Mais en même temps, il y a ça. Et en même temps, dans nos maisons, il y a la porte d'entrée, qui était toujours ouverte, naguère. Et la porte de derrière qui débouche sur le maquis. Et donc la grand-mère, elle chante à sa petite-fille, et le « Utuwab est à la campagne », c'est que ton papa, il est à la campagne. Et le gendarme qui vient arrêter le papa, il va à la campagne, manque de peau, il est parti dans la montagne, le papa. Voilà, c'est toujours cette distanciation que j'aime beaucoup, parce que les gens ne l'ont pas perçu sur cette culture corse. Tout le monde croit que c'est tragique, c'est pas tragique. Il y a toujours de l'humour, de l'ironie, et toujours de la résister à l'envahisseur.
Fabrique de révolutionnaires. Alors Dominique, cet instrument, quel est-il ? Il
Alors,
est beau ? Il est vraiment très, très beau. Je sais que les auditeurs ne le voient pas. Et il a été fait exprès, me semble-t-il. C'est un...
Oui, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les années 70 des débris de cet instrument qui était dépourvu de cordes. Et donc on a fait, à partir de la Gaza Musica, la Pigne, une recherche pour essayer de savoir comment elle était accordée. Puisqu'en fait, le dernier qui en jouait est mort en 1938. Il n'y avait pas de magnétophone en Corse à l'époque. Donc on n'a pas de témoignage sonore. Donc il a fallu faire toute une recherche. Et donc la recherche, nous l'avons faite, enfin moi en partie, hein. C'est surtout les Casalonga à Pigne qui l'ont fait. Et moi, je suis réveillé bien longtemps après. Et donc, nous avions des tablatures. Les tablatures, c'est le solfège primitif, hein, c'est-à-dire qu'on note les doigts sur les cordes et la case. Et donc, on a pris des chants traditionnels. Et donc, à Pigne, ils ont dégagé un accord. Voilà. Donc, l'instrument originel est pourvu de 8 doubles cordes, 16 cordes. Et donc, il a fallu dégager quelque chose là pour ça. Donc, je me suis fait faire le premier instrument à 16 cordes par Hugo Casalong. Et après, donc très longtemps après, puisque nous avons fait un disque avec les quelques musiciens corses qui jouent de la chaitara, c'est son nom en Corse, c'est un sistre en français. Et nous avons fait un disque sous la direction de Henri Agnel, qui accompagne Angélique Yonatos sur scène, et qui lui vient du Maroc. C'était un juif marocain, Henri Agnel, qui connaît très bien le sistre. Et quand il est arrivé, il a vu notre accord, on lui a montré les tablatures qui datent du XVIIIe siècle de Stéphane Allegrini du convent de Marcas. Il a dit, attendez, vous vous plantez complètement, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'accorder. Il dit, ah bon, il faut l'accorder comment? Il dit, en fait, c'est l'accord de sistre français. Alors c'était la catastrophe parce qu'on disait que c'était un instrument endémique à la Corse, qu'il n'y avait que nous qui avions ce truc-là. En fait, c'était l'accord de sistre français. Alors après, moi, j'ai dit, comme on ne sait pas comment c'était fait, j'en ai fait faire sept instruments différents, en tâtonnant pour chercher mon accord qui me conviendrait à moi, à ma voix, etc. Et je suis arrivé jusqu'à celui-là maintenant, qui est mon instrument. Enfin, je dis celui-là, c'est pas, pour moi, c'est une fille, hein, c'est Hache, etc. C'est là. Et donc, c'est le septième instrument que j'ai fait faire, parce que j'ai tâtonné, puisqu'on était libre, puisqu'il n'y avait pas de normes. Et en Corse, il y a toujours ça. Je saute du coq à l'âne. Mais dans les années 70, à l'avènement du mouvement du réacquist, ou de la réacquisition de notre culture que nous avions perdue, et la question s'est posée de savoir si on allait faire une académie de la langue corse. Et unanimement, on a tous dit... Pas question. Chaque village a sa langue. On ne fera pas une académie sur le modèle de l'académie française. Nous, on n'est pas des Français. Voilà. Donc, ça m'a donné cette liberté par rapport à cet instrument de faire l'instrument qui me convient à moi. Alors, pour résumer, hein, finalement, au bout du compte, après sept instruments à tâtonner, je me suis rendu compte au bout de 5 mois où j'avais celui-là qui me convient parfaitement bien. Je me suis dit, mais en fait, je l'ai accordé comme un saz turc. Voilà. Donc la boucle était bouclée.
C'est bien joli tout ça. Alors, Dominique, moi j'ai envie de faire partager à nos auditeurs cet engagement étonnant et très beau que vous avez en direction des personnes âgées, des personnes différentes. Et donc de faire un petit bond vers les ateliers que vous organisez en Corse, que vous organisez ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné le désir de retrouver les anciens? On a bien compris que c'était c'était une histoire de vie aussi, hein, de respect et de rendre.
Ce que je veux dire, c'est que la vie d'artiste sur scène, c'est bien joli. On arrive, on s'installe, on s'accorde, les gens rentrent, ils applaudissent et ils s'en vont. Donc depuis 1987, j'ai consacré énormément de mon temps à ce qu'on appelle des ateliers en direction de dépopulations, le plus souvent abandonnées, c'est-à-dire les anciens, les jeunes qui ne sont pas dans la norme scolaire, donc des classes de, comment on appelle ça, de transition, essayer de mettre le peu que je crois savoir au service des autres. Parce que finalement, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que faire l'artiste, ça va un moment, quoi. Mais moi, ce qui me compte pour moi, c'est le lien avec les gens. Je crois que j'aime les gens, finalement. Ils me cassent les pieds souvent.
J'avais compris, oui.
Mais j'aime beaucoup les gens. Et donc, leur permettre de mettre ce que je crois savoir un petit peu faire à leur service pour qu'ils puissent se réaliser. En gros, c'est, je pense vraiment, la société m'a mis le truc artiste sur le front. Je suis un artiste officiel, on va dire, même si je suis pas très très connu du tout. Mais je suis considéré comme un artiste. Et cet artiste, il met ce qu'il sait faire au service des gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que pour moi, les gens, ils ont leur richesse et qu'ils doivent la faire sortir, cette richesse-là. Et moi, je suis là simplement pour les aider à la sortir. Et donc, j'ai des résultats qui sont assez incroyables et bouleversants pour moi, qui me permettent de continuer à vivre heureux. C'est que quand d'un seul coup, je leur dis, mais votre richesse, je l'accueille, et on va la sortir ensemble, dans la restitution, après un atelier, quand on restitue aux familiers ce qui s'est passé dans l'atelier, et je vois les sourires qui s'illuminent, je vois les visages qui s'illuminent, et je vois des gens qui, d'un seul coup, prennent confiance en eux, puisque notre société, quand même, rabaisse tout le monde, d'une manière logique, tout le temps. On dit, t'es une merde, t'es pas bien, etc. Moi, je leur dis, vous êtes des merveilles, et j'accueille votre merveille, et je vous remercie de me l'offrir. Voilà, donc c'est ça qui me touche beaucoup plus que de faire simplement mes spectacles. Voilà.
Ce sont de drôles de types qui vivent leur vie, qui ne vivent pas selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qui n'ont jamais vendu. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois, compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leurs spectres gelés au-dessus des poubelles où remoureront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de dissous, comme si l'on mettait au fer un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Un ami Léo qui nous fait une double transition, hein, d'abord parce que je pense qu'il a dit un certain nombre de choses qui s'adaptent bien à notre ami Dominique. Et puis, nous savons que Dominique a, avec Léo Ferré, un lien un petit peu particulier et presque privilégié. J'aimerais que l'on parle de paye.
De mon lien avec Léo. Moi, je dis toujours par facétie, pour rigoler un peu, mais moi, je suis l'enfant de Léo Ferré et de Bob Dylan, mais je pense qu'ils n'ont pas pu faire de bébé ensemble. Ou alors, ça serait moi. Mais Bob Dylan m'a emmené dans le rock'n'roll, dans tout ça. Et Léo Ferré m'a redonné... je le suivais quand j'étais adolescent, quand j'avais 15 et 16 ans, je suivais en tournée. J'étais un enfant un peu rebelle et je ne vivais pas vraiment chez mes parents, donc je foutais le camp. Et j'allais suivre Léo, et Léo nous offrait à boire dans des bistrots. Et puis il dit « les mecs, hein, déconnez pas, hein, faites pas comme les cons qui votent, hein, votez pas hein. !» Ça me faisait rire. Mais j'étais très ébranlé, et puis après il y a eu 1970, où il a commencé ses grandes harangues sur fond de musique symphonique, l'orchestre de la Scala de Milan, « Il n'y a plus rien, les amants tristes », et « Poi basta », et tout ça. Où c'est devenu quelque part, il m'a réconcilié, parce que j'avais du mal, moi, à être entre l'écriture de mes textes et l'écriture de mes chansons. Il y avait un divorce, quoi. Et Léo, d'un seul coup, m'a montré la voie. Il m'a dit « Mais attends, tu peux sortir tes grands trucs comme ça et t'as pas besoin de mettre ça en forme couplet-refrain, quoi. Tu peux brailler ce que tu veux, c'est bon, quoi. » Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Et puis il y a la chanson « La mémoire et la mer » qu'il a écrit à Guéclin, la ville qui, l'île qu'il avait achetée dans les Côtes d'Armor. On appelait ça les Côtes du Nord à l'époque, et où il y a un château médiéval. Et il a écrit au fil de la plume, je ne sais plus combien, 50 couplets, et desquels il a tiré les quelques couplets qui sont dans La mémoire et la mer. Et La mémoire et la mer, c'est un truc qui m'a bouleversé, mais vraiment. Parce que c'est pas une chanson, c'est un récitatif, même s'il est chanté. Et puis, j'étais dans les Alpes en 93, j'étais parti randonner. Et puis, je suis rentré à Saint-Étienne-du-Tinée. 3 jours après, de rando en Italie. Et j'ai vu la couverture de Paris Match avec le portrait de Léo Ferré. J'ai dit, ça y est, il est mort. Et il était mort. J'avais pas besoin de dessin. Et donc, dans la pizzeria de Saint-Étienne-de-Tinée, j'ai écrit un texte parce que quand je suis heureux ou quand j'ai du chagrin, j'écris. Et j'avais rendez-vous avec mon pianiste de l'époque, Rémi Bellet, parce qu'il y avait un agent de l'ambassade du Japon à Paris qui voulait que j'enregistre avec le temps. J'avais dit, mais achetez-le par Dalida, par Ferré, par qui vous voulez, et pourquoi moi ? Il voulait, il me payait. Bon, alors j'avais rendez-vous avec le pianiste et j'arrive, on enregistre avec le temps. Et puis, comme la commande était faite, et puis derrière, j'ai dit à Rémi, on va dire au revoir à Léo. Et on a tout improvisé sur le texte que j'avais écrit à la pizzeria, là. Et Rémi a écrit une musique, enfin il a improvisé une musique qui est du Léo Ferré, c'est assez curieux. Et ça a été Salut Léo, voilà. Et voilà, c'est tout.
Salut Léo. Et Paye ?
Ben Paye, c'est grâce à toi, hein ? Non ? C'est grâce à vous, madame ?
Non, mais ce n'était pas pour dire ça, c'était pour dire ce qui se passe aujourd'hui à Paye encore, et ces rencontres qui sont quand même à la fois un hommage et puis qui sont aussi des rencontres de vie, des rencontres... Il y a eu des choses très belles qui se sont passées là. Voilà.
Mais à Paye, il y a Jackie Marcotte qui en fait était c'est très très... j'ai appris ça au fur et à mesure... Et c'était un animateur culturel, Jackie. Enfin, il était même plus socio-culturel. Il s'occupait de camps d'ados qui étaient là. Et Léo, qui était monégasque, qui montait à Paye manger chez Nana au restaurant. Et ils se sont rencontrés. Et puis Léo, qui était ouvert, moi je l'ai connu quand j'avais 15-16 ans, il était très ouvert, quoi. Et donc il parlait avec Jackie, et Jackie a décidé à un moment donné de faire venir Léo. Alors Léo est arrivé, ils sont dans ce village médiéval qui est improbable, parce que d'accès très difficile, il a fait monter un piano à queue, et Léo a joué là-dedans, donc les dernières années de sa vie, peut-être c'est, je ne sais pas la date exacte, il est mort en 93, c'est peut-être 90, je ne sais pas exactement. Et derrière, après la mort de Léo, Jackie a décidé que chaque année, on chanterait Léo. Mais alors, c'est pas du tout professionnel, quoi. C'est un truc de copain. C'est-à-dire, il n'y a pas de prix d'entrée, il n'y a pas d'affichage. Et moi, j'y vais depuis l'an 2000. Voilà. Et avant, j'avais rendu un hommage à Ferré à la salle du 18e arrondissement à Paris, là, qui s'appelle, je sais plus, voilà.
C'est pas grave.
On était là avec Paco Ibáñez, avec une tripotée de gens, avec Sergio Giroyo, avec... il y avait qui encore ? Enfin bref, on était nombreux. Et en 95, donc 2 ans après la mort de Léo, on a fait un grand hommage qui a duré une nuit entière. On a chanté du Léo. Et j'accompagnais Paco à la Tchétera. C'était assez marrant. Et donc derrière, 5 ans plus tard, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai été invité à venir à Peille. Et depuis 2000, j'y vais tous les ans. Je vais chanter Léo à Peille. Et voilà. Et c'est assez marrant parce que c'est ce village médiéval, qui est un village médiéval, quoi. Hein, mais là, voilà, un village médiéval qui est joli, très sympa. Mais je pense toujours à Léo. Quand il avait créé la chanson Peille, il l'a créée à la télévision, comment on dit, la télé Monte Carlo, TMC. Il était en bas dans les studios à Monaco, et puis s'est tourné vers Peille et dit pour mes amis de Peille, et il a chanté la chanson pour la première fois Peille en direction de ses amis de Peille. Donc chaque fois que je vais chanter tous les ans à Peille, je pense à Léo qui est en bas et je chante pour lui, quoi. Voilà. Comme ça, bêtement, quoi.
Bêtement, pas si bêtement que ça, quand même.
Non, c'est bien. Hein. C'est bien parce qu'il y a, vraiment une association de gens qui cherchent aucun profit personnel.
Tout à fait.
Qui sont au service des chansons de Léo. Et
puis on y fait des rencontres aussi.
Oui, Marie Ferré, Mathieu.
Oui, aussi. Mais je ne pensais pas à ça. Je pensais à des petits groupes qui aiment Léo, qui chantent encore Léo. Et puis ça donne des choses assez improbables, mais
oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est incroyable parce que tout le monde connaît Brel, tout le monde connaît Brassens. C'est la génération ne connaissent pas Ferré, quoi.
C'est vrai.
Alors moi,
je
me bats, j'ai mon spectacle Ferré que je tourne aussi au même titre que les autres, parce qu'il ne faut pas que ça disparaisse. Ça veut dire que Léo dérange encore beaucoup, 20 ans après sa mort, il dérange beaucoup. Ben, Brassens, il y a un consensus. Brel, il y a un consensus. Pas Léo. Et attends, je veux dire juste un truc, c'est que il répondait à un journaliste qui lui demandait pourquoi vous habitez en Toscane. Il dit bah, c'est un hasard parce que j'ai acheté le domaine là. J'aurais pu aussi bien habiter en Irlande ou en Corse parce que ce sont deux pays où la liberté, où la beauté rime avec la notion de liberté. Quand même.
Quand même, quand même. Bien. Encore un petit peu de musique. Moi, j'ai du mal là maintenant. Ne saurez jamais ce qu'il en est de s'être senti si seul, tellement abandonné. Et puis, ils asséchaient la mer, et puis, ils ouvrirent les tombes, et puis, la nuit devient le jour, et la mort vit. Et puis, les mots furent privés de toute signification, et puis, les peuples furent soumis à l'arbitraire et à la colère d'une oligarchie sans visage, et puis, il plut des grenouilles et des larves, et puis, les prophètes eurent les mains coupées et les chanteurs la tête. Et puis, les luthiers furent assignés à résidence, tout instrument détruit jusqu'au dernier. La musique au banc proscrite. Et puis, on boucha à la cire chaque oreille. Et puis, les boulangeries furent chargées en forteresse et puis la pluie fut coloriée en sang rouge afin qu'on puisse bien voir qui la bravait et s'obstinait à marcher contre le vent. Et puis, les cigarettes devinrent obligatoires dès l'âge de 11 ans. Chaque enfant son paquet, monopole d'État. Et puis l'État fut aboli et la jungle décrétée, sauf qu'il n'y avait plus d'arbres, plus le moindre arbrisseau. Et puis, les volcans furent sommés de fermer leurs bouches, de se taire et de se tenir tranquilles. Et puis les montagnes furent rasées. On y mit des parkings et des parcours de santé. Et puis la santé devint un délit, passible d'une peine de 20 ans au minimum d'emprisonnement. Et puis, un matin, sans crier gare, ce fut le jour des éléphants. Un petit extrait du dernier livre paru de Dominique Ottavi, qui s'appelle « Éléphant » et qui est paru chez Colonna Édition, donc sur l'île.
Oui, c'est Jean-Jacques Colonna d'Istrie, qui a été un agitateur, qui est toujours un agitateur culturel, qui était directeur de la première maison de la culture de Corse, qui n'a pas survécu d'ailleurs, il n'y a plus de maison de la culture en Corse, et qui a créé la librairie La Marge à Ajaccio, qui est une vraie librairie, comme il n'y en a plus beaucoup sur le continent. Une vraie librairie où on trouve tout, vraiment, et qui tient bon contre vent et marée. Depuis, il s'en est séparé, et donc, à l'époque, il publiait des livres sous le nom de La Marge Édition, le nom de sa librairie. Maintenant, il continue dans sa petite maison de San Benedetto, sur les hauteurs d'Ajaccio, à publier sous le nom de Colonna Édition. Et vous savez ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai vraiment une reconnaissance énorme pour Jean-Jacques, que je connais depuis toujours, c'est qu'un jour, il est venu vers moi, et ça arrive rarement quand on est écrivain ou quand on est poète. Il m'a dit, tu sais, j'aurais publié un texte de toi. Et je venais de terminer Éléphant, je lui ai envoyé, il m'a dit, ok, pas de problème, ça va bien. C'est la première fois qu'un éditeur me demande un livre, et c'est un éditeur de chez moi. C'est bizarre.
Et alors, Éléphant, qu'est-ce donc ?
Je sais pas, moi. Je sais pas, mais c'est pas un texte de commande. Il était prêt, le texte, quand Jean-Jacques m'a demandé un texte. Moi, je suis très sensible à je suis très sensible aux arts plastiques. Et dans les arts plastiques, depuis au moins 40 ans, il y a le côté d'exténuer un dispositif. C'est-à-dire Andy Warhol, il prenait la tête de je sais pas qui, et puis il a disséqué pendant 40 toiles, quoi. Et moi, éléphant, j'aime ce mot. J'ai dit, je vais exténuer éléphant. Donc, sans réfléchir, j'ai écrit je sais pas combien de textes il y a là-dedans, qui se termine toujours par éléphant. Donc, pour moi, c'était une démarche d'art plastique, en fait. Exactement comme l'art moderne le fait. Enfin, l'art moderne, maintenant, il commence à dater, hein, comme on fait depuis les années 60, en fin de compte, en art plastique. Donc, c'est pas un thème, éléphant. C'est le mot sur lequel je retombe, sur le mot sur lequel j'arrive. Mais je m'en fiche du terme éléphant. Hein, voilà.
Il y a dans ce studio des choses étranges qui se passent. Jean-Marc. Entre Jean-Marc et Dominique, un petit lien ténu de sensations, de souvenirs, d'images.
Juste pour dire que éléphant, c'était peut-être le point d'interrogation dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement. Tu es vraiment intelligent, Jean-Marc. Et tu vois, ça, la dernière page de mon livre que j'ai ajoutée au dernier moment, c'est « Elle est fan ».
Bien. Bon, tout va bien, tout va
c'est,
très bien.
Et c'est qui elle, Jean-Marc ? C'est qui ?
C'est pas, c'est qui elle ? Je cherche mais toujours. Alors, demandez à Dominique qui est elle et non pas qui est elle. C'est quand même une énigme de 110 ans. Quel âge avez-vous, Dominique Ottavi ? 120, 130 ?
162 et demi.
Alors, quels sont les projets de Dominique Ottavi en ce bas monde ?
De faire un nouveau livre avec Christiane Belleuil. Donc faire une résidence tous les deux et puis de continuer, quoi. J'ai fait mon dernier disque il y a 2 ans, en 2013. C'est un hommage à Léo Ferré, qui a été enregistré en direct du Festival de Peille, où je suis seul. C'est Ferré revisité à la Tché, il n'y a pas de piano, il y a à la Tché, le Sistre. Et donc maintenant, je me tripatouille la cervelle pour savoir si j'ai envie de faire un nouveau disque. Je ne suis pas sûr, j'ai surtout envie de faire des livres. J'ai vraiment envie de que soit publiée cette montagne de livres. Il y en a 13 dans mon ordinateur, il faut que je les sorte, quoi. Le temps passe et je mourrai dans pas longtemps, donc je veux finir ça avant. Et je suis plus motivé par l'écriture et les livres que de faire un disque, mais je vais quand même faire un disque quand même.
Il me paraît très très difficile de contourner cette histoire-là.
On verra, je sais pas.
Alors on revient sur des textes fort anciens, mais moi j'aime bien finir là-dessus. Le bon à payer a remplacé l'imprimatur. Et hier soir, j'ai le fa dièse qui restait collé. Je mange à tous les râteliers, mais j'aime bien qu'on me laisse aller à ma guise. Je veux du sang et des fèves, et le moignon brandi de ma colère intacte. Je veux des sacs et de la corde, et non plus qu'on me serve l'éternel alibi du pas vu pas pris. Je ne suis pas une marchandise, voilà pourquoi je n'ai pas d'ambition personnelle. Je ne suis pas une marchandise, je ne veux pas l'être. Je vous bénis, si c'est ainsi que je vous retrouve en vos assiettes et en mes verres.
Attends, moi je m'en lirai un aussi. Attends. Alors, dans l'extrait du même livre, la réponse de Christiane Belleuil. Ainsi la fin est joyeuse, ainsi la fin est douloureuse. Images et mots, fragile musique d'un infini qui s'envole, des mains qui papillonnent et disent l'absence, des yeux qui se cherchent, des corps qui s'élancent, brûlent dans la nuit les sombres brasiers, s'évanouissent à l'horizon les radeaux incertains, fantômes de nos vies, un instant incarné, le rivage est mirage et l'amour est mort, demain ne sera pas, demain, anéanti par nos tempêtes intérieures, désarmé par nos cœurs insensibles, absorbé par l'azur qui s'avance. Regarde, en un lent cortège sombre et lumineux, tout de violence pétrie, passent les âmes de tous nos passés morts, les âmes de tous nos avenirs ternis, les âmes de tous nos amours enfuis. Le sourire est au bout du voyage, sourire ridé, sourire crispé, demi-folle, au visage ravagé, sourire brûlant d'espérance, et les yeux de l'enfant rieur, le début et la fin, le commencement et le but. Christiane Belleuil.
Oh, c'était pas tout à fait utile, mais c'était drôle. Est-ce que nous avons droit à un dernier morceau de Cetera et quelques vrais mots de Dominique sur la musique? Non pas que les mots qu'a dit Dominique ne soient pas vrais, je pensais à une chanson de Dominique.
In lingua corsa ou alors en français?
As you like.
J'ai vu des gens ordinaires, j'ai vu des simples d'esprit, j'ai vu des retors, des camés, des pourris. Et j'ai vu derrière chacune de ces personnes rencontrées ou entrecroisées la même richesse humaine dont ils n'avaient même pas conscience, aucun. Et je pense que ma vie d'artiste, c'est de débusquer chez chacun cette merveille essentielle, qui gît dans le cœur du pire des humains, de la plus charogne, des traîtres. Chacun, même ceux qui ne le savent pas, surtout ceux qui ne le savent pas, chacun une richesse infinie. Croisons-toi, bats-toi, barre-toi, fous le camp. Jette-toi dans le ravin, jette-toi sur la route et vis, oh vis, vis. Tôt ou tard, tu te rencontreras. Tôt ou tard, tu auras affaire à toi, au vrai toi, pas celui qu'on t'a fait endosser. Pas celui qu'on t'a proposé comme vêtement. Ouvrez-toi. Et quand tu doutes de toi, quand tu penses que tu es nul, que rien ne mérite ta vie, dis-toi que tu as la plus belle richesse. Vis, vis. Oh, vie, vie, vie.
Merci, monsieur Ottavi. Nous allons vivre, nous allons tenter de le faire avec le souvenir d'une rencontre bien, bien agréable. Et je ne saurais que trop inviter nos auditeurs à acheter et à découvrir ce livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Qui me connaît sait bien que je défends les libraires et les libraires locaux. On évite d'acheter sur Internet un livre.
Jamais, jamais, jamais Amazon, hein, jamais.
Voilà donc Éléphant, le dernier livre de Dominique. Et puis en disque, on a un disquaire à Digne qui est remarquable et qui pourra... faire tout ce qu'il faut pour que les disques soient présents aussi. Eh bien, on va se quitter en musique, je pense, avec encore Dominique Ottavi.
Oh là là.
Franchement,
beaucoup,
bon, hein. C'est le choix de Jean-Marc. Et pour ma part, je vous dis au mois prochain. Alors, on va laisser la surprise à Monsieur Jean-Marc et le dernier mot à Dominique Ottavi.
Mais merci beaucoup, Christiane, et merci, Jean-Marc. Merci de votre accueil. Merci.
Merci d'exister, tout simplement. On oui. En est tous là, et c'est très bien comme ça. À bientôt.
À bientôt.
C'est quoi, là-bas ?
Tu te dis du libre.
La guerra che brucia di l'uso fuoco per tutti scandalosoni pullu gli stessi splendori da fasmenti galidoni e da larigra ligori. Aspitando so chiarori partu di salza l'umaglio in piazza dell'universo pa lui ornu filisciadio chi porta la amori perso. Partout ci sarà pace, ogni giorno con l'umani, e la frati danza faci con l'ingegno di Limani. Partout nasce l'amore, fem insieme la Gucania, dagli giughi e li maiori, par sbrava a chi si lagna. Si tedi di lì paesi, gulugori, gulugori, e mi pare sintesi, spanagori, spanagori.
Let's go.